Les chemins de la sagesse. Une émission proposée par Michel Théron.
Michel, bonjour.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Eh bien oui, les chemins de la sagesse. Sur les chemins de la sagesse, nous continuons à lire votre livre, Michel, un livre qui est paru aux éditions BOD, disponible sur leur site internet. Sans problème, il y a du stock, on peut en avoir auprès de cette maison d'édition.
On peut le commander aussi en librairie.
En librairie aussi.
Absolument, il est diffusé par la Sodis.
C'est très pratique la Sodis pour la distribution. Alors, la semaine dernière, Michel, nous sommes arrêtés au fait qu'il vaut mieux être un saumon vivant qu'un bois mort flottant et qu'il faut donc savoir remonter en enfance.
Voilà, alors donc je parle de la nécessité salvatrice d'un retour à soi, au vrai soi, au soi que l'on a à l'intérieur, et il me semble qu'elle peut être illustrée, cette nécessité, par l'épisode évangélique très connu concernant le fils prodigue qui se trouve dans l'évangile selon Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Hein. C'est une parabole propre à Luc. Alors je vous lis simplement le début. Hein. Jésus dit encore, un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient », et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain, et y dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée, et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée, qu'il envoya dans les champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, voilà l'essentiel, rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je suis ici à périr de faim. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Mmh. Bon, tout le monde connaît la suite, hein, le frère aîné qui arrive, qui est jaloux, qui est pas content, hein, de cette fête. Mmh. Hein,
tout le monde
est content, sauf lui.
Ben oui, il est resté auprès de son père, l'aîné.
Oui, il est resté auprès de son père.
Il ne mérite donc rien.
Non, bien sûr, mais je dis tout le monde est content, sauf le beau gras, le pauvre. Il est pas content.
Ouais.
Mais enfin, moi, qui m'intéresse, c'est la décision que prend cet enfant prodigue. Rentrant alors en lui-même, il se dit, voilà, il revient à lui, il rentre en lui-même, en grec, eisse auton elton, hein, en latin, in se autem reversus, réversion, à donner, ou conversion, c'est pareil, hein, conversus, reversus, etc. Donc c'est une magnifique histoire de résurrection, d'ailleurs c'est ce que dit le père à la fin, hein, il était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, je pourrais traduire moi aussi, il s'était perdu et il s'est retrouvé. Trouver. Vous voyez, hein, in ventus est, dit la Vulgate, hein, alors on peut dire il a été retrouvé, mais il s'est retrouvé lui-même. Donc c'est une magnifique histoire de résurrection, au sens psychologique ou spirituel du mot, ou bien aujourd'hui, comme on dit, de résilience. C'est Cyrulnik qui parlait de la résilience, hein, il s'est redressé, voilà. Mmh. Parce que résurrection, ça veut dire le fait de se redresser, resurgere, hein, se mettre debout, se remettre debout. Mais pour être réintégré dans la vie, on voit bien que c'est en soi qu'on doit en trouver le courage, c'est-à-dire au centre du soi central, hein, du soi intérieur qu'il faut revenir. Revenir à soi se dit d'ailleurs de celui qui émerge de l'inconscience, il revient à lui, hein, après un évanouissement par exemple, hein, l'évanouissement qui est la figure d'une mort momentanée. Et quand on dit à quelqu'un qu'il n'est pas lui-même, on veut lui dire, non pas qu'il a disparu puisqu'il est encore en vie, mais simplement qu'il n'est plus conforme au modèle intérieur, hein, que fait de lui, qui fait de lui ce qu'il peut et ce qu'il doit être. Lors de la précédente émission, nous avons parlé du modèle intérieur tel que l'Évangile selon Thomas
l'exprime. Et non pas le modèle de la société.
Voilà, oui, tout à fait, Guylaine, c'est ça. Il ne s'agit pas de se conformer au modèle social environnant, hein, mais de retrouver le modèle intérieur. Le modèle social aujourd'hui, c'est travailler pour consommer, hein, c'est ça. Voilà, dans la société capitaliste mondialisée. Mais là, au contraire, c'est, les enjeux sont tout autres, hein. Il faut retrouver au fond de soi ce que l'on est vraiment.
Et qui, par définition, du coup, est unique et non pas un modèle de société qui
absolument,
serait multiplié
absolument.
Par X.
C'est pour ça que je le répète, je l'avais dit lors de la dernière émission, cet itinéraire de sagesse va nous permettre de résister politiquement même à l'injonction totalitaire de la doxa. La doxa, c'est l'opinion, hein, l'opinion courante, l'opinion admise, hein. Alors, pour signifier ce changement d'état d'esprit que fait l'enfant prodigue, le rédacteur évangélique emploie le mot de métanoïa. Métanoïa, en grec, ça veut dire changement de pensée, changement d'état d'esprit. C'est une notion essentielle, la métanoïa, qu'on peut employer en dehors même de son contexte religieux traditionnel pour signifier, je répète, une conversion psychologique ou spirituelle. Je dirais ici un retour à une sagesse perdue, quelque chose comme ce qu'on appelait autrefois la récipiscence. C'est un vieux mot qui existe encore dans le dictionnaire, à condition de laisser le sens de résignation que peut avoir ce mot de récipiscence, hein. Et on voit par l'exemple de l'enfant prodigue que cette conversion est d'abord un retour, une réversion, je répète, reversus, hein, une réversion au centre même de l'être. Alors, ce mot grec du Nouveau Testament, métanoïa, calque le mot hébreu teshuva. Et il faut bien noter que les deux mots sont susceptibles de deux interprétations très différentes. Pour la majorité des interprètes et des croyants, il s'agit de faire retour à Dieu, d'être réintégré dans le giron d'une puissance transcendante, extérieure et antérieure à l'homme. Et alors on comprend par là pourquoi certains voient dans la métanoïa un repentir ou une pénitence, une humiliation de l'homme. Par exemple, la Vulgate traduit métanoïa par penitentia, qui veut dire pénitence. Mais pour une minorité, alors je dirais spirituelle, une minorité sapientielle ou qui s'occupe de sagesse, il s'agit simplement de faire retour au centre de soi pour y trouver la vraie voie, la vraie réalisation, non pas dans le giron de Dieu, mais au centre de soi. Alors la première interprétation, la métanoïa, revenir à Dieu, elle est exotérique, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à la foule des fidèles. Et cette foule, il s'agit en l'espèce de la diriger. C'est naturellement l'option choisie par l'institution cléricale qui est prompte évidemment à instrumentaliser cette situation. Et la seconde, la teshuva ou la métanoïa, retour à soi, elle est ésotérique en ce qu'elle parle aux seuls initiés. Et c'est cette voie que choisit dans le monde juif la kabbale, qui est une gnose juive, hein, et en monde chrétien, la gnose, vous voyez. Et c'est celle qu'il faut suivre quand on parle de vraie réalisation de soi, puisqu'aussi bien le royaume, comme le dit aussi l'évangile de Luc au chapitre 17 au verset 21, est à l'intérieur de nous, hein, est à l'intérieur de nous, entos imon, malgré tous les contresens volontaires que font les bibles institutionnelles sur ce passage. Vous voyez, Guylaine, moi, quand quelqu'un me dit, est-ce que la Bible que je lis est une bonne Bible, je lui réponds, regardez la traduction qu'elle fait à Luc 17, 21. Hein. Alors, la plupart des Bibles ont le royaume de Dieu et parmi vous, hein, ou au milieu de vous, ce qui veut rien dire. Hein. En fait, le grec a entos imon, hein, c'est-à-dire, il est à l'intérieur de vous, il est en vous. Hein. C'est ainsi que le comprennent les chrétiens orthodoxes et ils ont raison, hein, ils ont raison. Mais ces fausses traductions obéissent justement aux nécessités d'une pastorale, hein, qui nous ordonne de nous socialiser, hein. C'est favorisé par les institutions ecclésiales. La Taube, par exemple, voici comment la Taube commente le Hentos Simon de Luc 17-21. Elle dit, on traduit parfois en vous, mais, alors ça me ferait toujours rire, cette traduction a l'inconvénient de faire du royaume une réalité seulement intérieure et privée. Alors autrement, on le voit, qui s'excuse s'accuse, et quand le texte gêne, on va le fausser, hein. Et la pastorale, qui veut à tout prix socialiser les hommes, passe avant la philologie, ou bien la théologie, si vous voulez, passera avant la philologie. Parce que les hommes, là, ils sont vus comme un troupeau à diriger, comme des ouailles. Alors, ouailles vient du latin ouicula, qui veut dire petite brebis, vous voyez, petite brebis, hein. Donc, il s'agit de diriger les brebis, soyez sans crainte, nous pensons pour vous, etc. Alors, ça satisfait évidemment les bergers, hein, et chez ces bergers, le sentiment de leur importance, pour ne pas dire leur appétit de pouvoir, hein. C'est pourquoi ils se méfient de tous ceux qui pensent autrement. Ça serait introduire le loup dans la bergerie. Vous voyez, c'est un petit peu mon cas, hein. Donc, moi, je maintiens malgré tout que Hentos Simon ne veut pas dire autre chose que à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que cette parole se trouve à l'identique dans l'Évangile selon Thomas. Je crois que c'est le Logion 3, hein, Logion numéro 3. Hentos a donné dysenterie, etc. Tout ce qui est à l'intérieur, hein, tout ce qui est à l'intérieur. Alors, je pense que il faut être honnête, hein, résister à ces tours de passe-passe, à ces escroqueries grammaticales, par exemple, etc. Et voir le message. Je pense qu'il y a un Jésus sage, un Jésus maître de sagesse, hein, qui a peut-être été après récupéré ses paroles. C'est miracle que ça nous reste ce Luc, le verset 21 du chapitre 17 de Luc. Il est au milieu de choses tout à fait différentes, une vision apocalyptique, hein, interrogé par ses disciples pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu. Jésus dit, le royaume ne vient pas être observé, comme l'éclair va d'un côté du ciel à l'autre, ainsi sera le royaume de Dieu. C'est une vision apocalyptique, une vision tiré du livre de Daniel, une vision eschatologique. Mais Jésus nous dit, le royaume, il est à l'intérieur de vous. Voilà, ça n'a rien à voir avec le verset précédent, si vous voulez. Bon, c'est décousu. Et le verset qui suit est un verset sacrificiel, mais d'origine paulinienne. L'influence de Paul sur le rédacteur de Luc est bien connue. Il faut auparavant que le Fils de l'homme souffre sa passion, vous voyez. Donc, une vision eschatologique, une vision du royaume intérieur et une vision sacrificielle. C'est incohérent, c'est complètement décousu. Fait, ouais. Hein. Ouais. Chez moi, on dit, à force de pétasser, on perd le drap. Hein. Donc, peut-être que là, l'évangile est complètement rapotassé. Ouais. Mais moi, je préserve comme une magnifique pépite ce verset 21 du chapitre 19. Le royaume 17, de 17. Dieu... du chapitre 17, vous avez raison, oui. Du chapitre 17. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Mmh. Alors, qu'en est-il maintenant, non plus de la forme qu'elle prend, mais du fond de la métanoïa? Qu'est-ce que ça veut dire changer son esprit, hein? Il semble qu'il faut, à l'occasion de ce changement d'état d'esprit, mourir à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire mourir à soi-même? Mourir au petit soi factice qui n'est pas vraiment soi, hein, pour renaître avec une vision élargie et englobante de l'existence. C'est l'enseignement évangélique dans sa version secrète ou ésotérique, je dirais. C'est l'enseignement qu'on a dans l'évangile selon Jean, chapitre 12, verset 24. Hein, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
C'est dans l'évangile, mais pas seulement dans l'évangile, beaucoup de sagesse prône cela, cette petite mort, mort à soi-même.
Mort à soi-même, mort au petit égo, ce que j'appelle le tout à l'égo, voilà, le tout à l'égo, à l'égocentrisme, ouais. Hein, voilà. Mais si on interprétait la phrase que je viens de lire de Jean littéralement, ça serait affreux, Guylaine, parce que ça justifierait la recherche du martyr et ça autoriserait l'attitude du fou de Dieu, du terroriste kamikaze. Hein. Il faut mourir pour porter de fruits. Non, il faut l'interpréter symboliquement. Hein. Et symboliquement, elle a un sens magnifique. Il y a bien sacrifice, bien sûr, mais dans un tout autre sens. Il ne s'agit pas de sacrifier sa vie, il s'agit de sacrifier l'ego qui ramène tout à soi, dont je viens de parler, et qui génère l'égocentrisme pour adopter face au monde une attitude qui unit à la fois et paradoxalement la hauteur et la modestie, la relativisation des choses par l'attitude de prise et le sentiment de sa propre petitesse par égard à tout ce que nous ignorons. Hein. Il faut douter, et voilà, il ne faut pas dire toujours « je sais », comme on l'entend dans la chanson que nous allons entendre, Jean Gabin, magnifique.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Et heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour. Quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau.
C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse. Mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça je le sais.
Et oui, Michel, vous avez convoqué Jean Gabin, je sais, dans notre émission sur les chemins de la sagesse, un livre publié aux éditions BOD. Et oui, le savoir, parfois, il nous détourne de notre connaissance de soi.
Voilà, alors hors antenne, nous parlions de Luc 17-21. Je vous faisais remarquer que la Vulgate, dans la Vulgate, Jérôme traduit Ento Simon par intra vos est regnum dei, c'est-à-dire le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Il a très bien traduit, intra, hein, entos, voilà. Donc, c'est vrai que il n'y a pas lieu de faire passer la théologie avant la philologie.
Mais non.
Alors, magnifique chanson, enfin, c'est plutôt une parole, hein,
oui.
Accompagnée de...
Oui, avec une voix quand même très, bien très, présente.
Voilà. Donc, ça veut dire que dans la vie, c'est quoi? La métanoïa, le changement d'état d'esprit, c'est prendre de la hauteur et à la fois se faire petit. Hein. C'est paradoxal. Prendre de la hauteur, relativiser, et se faire petit, être très modeste. Et il faudrait trouver en soi, non pas ce que l'on est quand on fonctionne habituellement et banalement, mais trouver un certain point de surplomb qui change la vision, une attitude de sagesse et de maturité qui est faite de compréhension et aussi de prudence, dont les autres mêmes seront bénéficiaires, vous voyez. Alors, il y a une phrase de Nietzsche qui dit « Deviens ce que tu es ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut l'éclairer d'une parole alors de Goethe. Goethe disait « meurs et deviens », et cette parole « meurs et deviens » de Goethe est très pratiquée en franc-maçonnerie. Hein. Donc, mais nous sommes dans un milieu de réflexion un peu ésotérique, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Et en somme, la réalisation de soi passe par le sacrifice de soi. Ce sacrifice de soi n'est pas, bien sûr, littéral, mais il se fait au bénéfice d'un soi avec un S majuscule trouvé en soi, d'un autre plus grand que soi. Et c'est ce point de surplomb que recherche, vous l'avez bien dit, Guylaine, tout à l'heure, toutes les sagesses et toutes les spiritualités du monde. Hein. C'est vrai, là, il y a un consensus hein, pour arriver à ce point de surplomb. Alors, on peut bien sûr y parvenir par des techniques, par exemple, par la méditation définalisée, par la pleine conscience, voilà, la pleine conscience, la présence à soi, etc. Je n'ai rien contre ces techniques, j'ai pu les égratigner tout à l'heure, mais je veux dire, il faut les insérer dans une recherche philosophique, voilà. Mais je pense qu'un peu de réflexion suffit à voir la nécessité. Combien de fois, alors je pense que vous en serez d'accord, Guylaine, combien de fois dans la vie nous nous obnubilons sur des détails dans nos vies au détriment de l'ensemble, hein. C'est le petit ego qui parle en nous, hein, et à lui, tout lui est dû. Mais combien vaste et imprévisible est le monde à côté ? Il convient donc d'élargir le champ de notre vision. Alors, de dézoomer, moi je fais aussi de la vidéo hein, et de la photo, de dézoomer ou de faire un travelling arrière, comme on le dit au cinéma. On passera alors de la macro, hein, du gros plan, du close-up, hein, au panoramique. Hein. Je sais qu'on ne sait jamais, dit Gabin dans sa chanson « Je sais », mais il ajoute « C'est tout ce que je sais, mais ça je sais hein. ». Donc, il ne faut pas perdre cœur à la paranoïa naturelle de l'ego s'oppose la métanoïa de l'ignorance reconnue et de la prudence corrélative. Donc, le commencement de la sagesse, vous voyez Guylaine, un croyant nous dira c'est la crainte de Dieu. Bon, mais c'est ce que dit le livre des Proverbes. Hein.
Je sens que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça.
Chapitre 9, verset 10. Hein, dans la Vulgate, Initium Sapientiae, Timor Domini, la crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Eh bien, moi, je suis pas d'accord. Je pense que le commencement de la sagesse, c'est la formulation d'un peut-être, ou d'un qui sait, hein. Nous ne savons pas tout d'emblée. Alors, j'aurais pu choisir comme musique, cuissas, 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 hein. Qui sait, qui sait, qui sait, hein. Bon. Mais il fallait choisir. Alors, le soi jungien, c'est un idéal d'unification avec le monde extérieur, dans sa profusion et ses mélanges. On saisit, par exemple, l'union des opposés, la coincidentia oppositorum, qui est très difficile à comprendre si on utilise sa seule logique. Ainsi, nous pouvons comprendre que quand nos parents meurent, ils naissent en nous, par exemple. Que quand nos enfants sont ingrats, ils nous rendent service. Nous nous interrogeons sur nous-mêmes, est-ce que nous ne sommes pas trop possessifs avec eux, etc. On peut comprendre aussi qu'il y a des réussites qui sont des échecs et des échecs qui sont des réussites. Qu'il y a des revers qui sont des médailles. J'aime bien renverser les proverbes. Toute médaille a son revers. Oui, mais il y a des revers qui sont des médailles, des regrets qui peuvent sourire, comme le dit Baudelaire dans Recueillement, dans Les Fleurs du Mal, surgir du fond des eaux, le regret souriant, etc. Alors, bien sûr, cet élargissement de la vision naturellement égocentrée est un idéal. Elle n'est jamais réalisable complètement. Cet idéal reste asymptotique, hein. Mais je pense qu'il faut l'essayer, hein. Essayons, par exemple, dans nos relations avec l'autre, d'entrer dans les raisons de l'autre. de voir les choses comme l'autre les voit, faisant sur lui une projection. Alors on a déjà parlé des projections, mais cette projection ne sera pas aveuglée. Il faut faire preuve d'une projection intelligente, il faut faire preuve d'imagination. Chacun a ses raisons, et celles de l'autre ne sont pas les nôtres. Mais en prenant de la hauteur, l'ensemble va s'harmoniser et pourra nous parler comme ces tableaux impressionnistes qu'on ne déchiffre pas quand on est trop près, mais qu'on arrive à voir, si vous voulez, quand on s'éloigne. Hein. Ou encore, je prends une dernière métaphore, Guylaine, comme quand nous montons dans un escalier en colimaçon d'une vieille tour féodale, par exemple la tour Carbonnière près d'Aiguemorte, par exemple. Bon, alors, nous ne savons pas où nous allons, hein, mais nous avons seulement pour nous accompagner des jets de lumière fugitifs qui passent à travers les meurtrières. Hein. Mais enfin, nous débouchons sur la plateforme en haut, hein, et au sommet, tout le panorama va se dévoiler sous nos yeux d'une façon nette et éblouissante, vous voyez. Hein. Donc il faut atteindre cette hauteur, voilà. Et je pense que dans un couple, par exemple, quand il y a une dispute, c'est celui qui fait le premier qui est le plus intelligent, vous voyez.
Prendre
la hauteur. Nous y reviendrons peut-être en parlant de la bonne chanson de Verlaine dans le recueil intitulé précisément Sagesse. Hein. Mais nous le réservons pour la prochaine fois.
Ah bien, à très bientôt Michel. Au revoir.
Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.